Amis auditeurs, bonjour. Nous reprenons le fil de nos émissions concernant la correspondance ou les journaux d'écrivains avec le journal du Mikhaïl Sebastian, paru chez Stock en 2007. De ce journal précis, touffu, documenté, écrit par cet intellectuel roumain, Mikhaïl Sebastian, pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous ne garderons que des extraits de la période 40-41 où tout bascule, pour Mikhaïl Sebastian, âgé alors de 33 ans. En effet, ce francophone et francophile, avocat, journaliste et dramaturge roumain, a tout espéré de la France depuis le début du conflit qu'il analyse remarquablement. Depuis juin 40, son inquiétude pour Paul D, son frère qui vit en France, et ses désillusions sur ce pays aimé sont fortes, comme en témoignent ses écrits du journal de l'année 40, en date du 16 juin et 17 juin.
Dimanche 16 juin 1940. À Bordeaux, le Conseil des ministres est réuni presque en permanence. Hier soir, ce matin, cet après-midi. Il n'est pas impossible que ce soit pour préparer les modalités de la capitulation. Dans 3 jours ou 5, ce sera la fin. Le drapeau à croix gammée sur la tour Eiffel, des sentinelles allemandes à Versailles, une garde d'honneur allemande devant la tombe du soldat inconnu, à l'Arc de Triomphe. Mais il y a pire que l'arrogance et les provocations qui pourraient au fond éveiller ou entretenir dans l'esprit des Français la volonté d'être. Je pense avec plus d'effroi à la concorde qu'on ne tardera pas à prôner. Il y aura des journaux, des manifestes, des partis pour faire d'Hitler un ami de la France, son protecteur sincère. À ce moment-là, toute la panique, tous les ressentiments trouveront comme exutoire un long pogrom. Où Paul D peut-il être ? Que va-t-il faire ? Que va-t-il devenir ? Et nous, ici ? Lundi 17 juin. La France dépose les armes. Pétain, qui a pris cette nuit la place de Reynaud, a annoncé aujourd'hui à 2h qu'il allait tenter d'obtenir la cessation des hostilités. Il a demandé aux Allemands, par l'intermédiaire de l'Espagne, de lui signifier les conditions d'une capitulation. Hitler exige une capitulation sans conditions. Il en va comme de la mort d'un être cher. On ne comprend pas, on n'y croit pas. La pensée s'arrête, le cœur ne sent plus rien. À plusieurs reprises, j'ai eu les larmes aux yeux. Je voudrais pouvoir pleurer.
Le journal n'est repris que le 1er janvier de l'année 41.
Mercredi 1er janvier. Ayant perdu l'habitude de ce journal, je peine maintenant pour m'y remettre. Depuis la chute de Paris en juin, lorsque j'y ai renoncé, abattu et habité par un atroce sentiment d'inutilité, j'ai essayé de le reprendre une seule fois fin octobre, mais je n'ai pas persisté. J'ai pourtant regretté bien souvent de ne pas avoir la vaillance de continuer mon journal au cours de la seconde moitié de l'année, pour regarder en face tout ce qui s'est passé depuis. Je repense aujourd'hui à mes mois de zone, et j'ai du mal à en retrouver l'atmosphère de terreur. Je me dis que j'étais alors tout près de la mort. Je me rappelle que j'ai voulu me suicider plusieurs fois. Mais tout cela est à présent effacé, indifférent, presque incompréhensible. La nuit de la mobilisation, le départ de la caserne, le voyage presque irréel en direction d'Oltenitsa, l'arrivée à l'aube, sous la pluie, à Valea-Louis-Soare, les 4 semaines passées là-bas, les brimades réitérées de Niculescu, de Capchoune à nous, ma brève permission à Bucarest début août, avec le sentiment violent que la zone et l'autre vie sont deux choses totalement différentes situées sur deux planètes étrangères. Ensuite, le retour brutal à Oltenitsa, de nuit, cette terrible nuit du 11 août 1940, à la gare. Un cauchemar dans lequel s'entrecoupaient les voix hurlantes de Capchoune à nous et Niculescu. Les 2 nuits et 3 jours dans le train régimentaire. Les heures interminables en gare de Bucarest. la remontée le long de la vallée de la Praova, ensuite vers Brașov, puis vers Sighișoara, la traversée de la Transylvanie dans sa largeur, le détour par Lugoj, la journée en gare de Lugoj, le tourment sans fin sur la rampe de la gare, l'arrivée à Boldur, la nuit tragicomique à l'échange des effets, et tout le reste des deux semaines à Boldur. Enfin le retour à la maison dans un détachement de juifs, et la marche de Boldur à Lugoj, et l'arrivée au régiment, et la matinée passée à décharger des wagons de bois. Tout cela perdu de son intensité tragique et grotesque. Je croyais alors que jamais ne s'effacerait de mon cœur le dégoût et la fatigue. J'étais plongé dans une espèce de stupeur qui me faisait accepter sans révolte, comme dans le sommeil, tous les coups qui ont suivi. Exclu du barreau, licencié des fondations, envoyé faire du terrassement dans un détachement de travail. Tout cela, j'aurais peut-être dû le noter. Une année tragique. Une année de cauchemars, une année pleine de peurs, de tracas, de malheurs, et pourtant, je l'ai terminée cette nuit sans désespoir, avec horreur, mais sans désespoir. J'espère encore, je crois encore. En juin, quand Paris est tombé, tout me semblait fini, perdu, définitivement perdu. Aujourd'hui, la vie me paraît possible dans un avenir lointain. Ce peu est beaucoup. Happy New Year! Elle ne sera peut-être pas happy, ne lui en demandons pas trop. Mais si elle épargne notre vie, quand elle s'achèvera, dans 12 mois, la lumière sera plus proche, le rivage plus accessible.
Ce mois de janvier est dense d'événements politiques qui impliquent des amis. Des divisions se font jour. L'intelligentsia roumaine sympathise et justifie la montée de la violence orchestrée par la Garde de Fer, une organisation fasciste en Roumanie. Dans ce contexte, Mihail est confronté à la lâcheté et à l'opportunisme de ses propres amis, Mircea Eliad, Cioran, à l'attitude pusillanime de Ionesco. Mihail se nourrit de lecture, de création, une pièce de théâtre, de musique classique.
Jeudi 2 janvier 1941. Je rencontre Cioran dans la rue ce matin. Il est radieux. On m'a nommé, attaché culturel à Paris. Tu comprends, me dit-il, si on ne m'avait pas nommé, si j'étais resté là, j'aurais dû partir comme réserviste. J'ai reçu l'ordre aujourd'hui même. Je ne voulais d'ailleurs pas me présenter. Alors comme ça, tout est réglé, tu comprends ? Je comprends, bien sûr, mon cher Cioran. Je ne veux pas être méchant, mais avec lui, et surtout pas ici, cela servirait à quoi ? Il est un cas intéressant. Il est même plus qu'un cas. Il est un homme intéressant, remarquablement intelligent, sans préjugés, qui réunit de façon amusante une double dose de cynisme et de lâcheté. J'aurais dû consigner, elles en valaient la peine. Les 2 longues conversations que j'ai eues avec lui en décembre. 38 degrés de fièvre, mauvais début d'année. Mercredi 8 janvier. Encore malade. Je ne sais pas si je peux me considérer comme convalescent. Je n'ai plus de fièvre, mais je me remets difficilement, lentement. Eugène Ionesco, qui passe chez moi de temps à autre, fait des pieds et des mains pour quitter la Roumanie le plus vite possible, pour s'enfuir. La même panique que Cioran, la même alarme, la même hâte de fuir pour se mettre à l'abri. Je n'ai bizarrement jamais pensé à fuir depuis la chute de Paris, hormis de vagues rêves nostalgiques qui ne m'obligent à aucune démarche, qui ne sont pas des projets. Mardi 14 janvier, un soir d'anxiété, sans que je me rende compte pourquoi au juste, je perçois des menaces confuses. La porte serait mal fermée. Les volets seraient transparents, les murs aussi deviendraient translucides. De n'importe où, à tout moment, peuvent faire irruption chez moi je ne sais quel danger, dont je connais en fait la présence permanente, mais auquel je m'habitue en général jusqu'à les oublier. Et puis, soudain, tout devient oppressant, imminent, étouffant. On voudrait appeler au secours, mais qui ? De quelle voix ? avec quels mots ?
Pour prendre le pouvoir en Roumanie, les légionnaires de la garde de fer tentent le coup de force. La situation est confuse. Le général Antonescu, homme fort du gouvernement, s'y oppose et fait donner l'armée. Ce même Antonescu sera le pantin d'Hitler dès l'arrivée des troupes allemandes en Roumanie. Seul fait constant de cette période trouble, la chasse aux juifs s'accentue, déjà marquée par l'antisémitisme ambiant.
Mercredi 22 janvier, 9h30 du soir. Seul. Le téléphone coupé depuis midi. Pas moyen de savoir ce qui se passe à la maison, rue Antime. Je voudrais pouvoir dire un mot à maman. Je voudrais l'entendre parler. Je pense aux heures de peur qu'ils vivent là-bas. Je regrette de n'avoir pas été assez résolu ce matin, lorsque c'était encore possible, pour y courir et y rester. Tous ensemble, nous attendrions peut-être plus facilement. Je me promets d'y aller sans faute demain, s'il y a encore un demain. Pour que nous soyons ensemble, quoi qu'il arrive. On n'arrête pas de tirer. J'entends des coups de fusil et de mitrailleuse, parfois des coups de canon. Ce matin, ils étaient loin. Ils semblaient provenir des banlieues. Plus tard, ils se sont rapprochés du centre. Vers 1h, quand je suis descendu, les bus ne circulaient plus. J'ai hésité, aller ou non rue Antime. J'ai eu juste le temps d'appeler à la maison pour dire que je ne viendrai pas. Ensuite, toutes les lignes ont été coupées. La fusillade a éclaté vers 5h. Je n'ai pas pu observer ce qui se passait, car il a fallu évacuer aussitôt tous les balcons. J'ai seulement vu quelques centaines de manifestants qui venaient du palais royal. Je suis rentré dans ma chambre, en laissant entr'ouverte la porte de la terrasse. Les détonations ne couvraient pas les cris. Je suis descendu une minute pour demander au concierge ce qui s'était passé. Selon lui, un soldat a été tué, et après, la troupe qui n'a tiré qu'en l'air, a reculé pour laisser passer les légionnaires. La rue était pleine de gens hagards, désemparés et pourtant, à ce qu'il m'a semblé, assez indifférents. Je suis remonté chez moi. Il était absurde de tenter de me rendre ailleurs. J'ai allumé la radio sur Bucarest. Au bout de 10 minutes ou un quart d'heure, une voix. La Légion triomphera. À Constanța, Tecuci et Craiova, une grande partie de l'armée a rallié la révolution légionnaire. Les ministres en juillet et les traîtres paieront. La radio est donc aux mains des légionnaires. Les journaux qui paraissent, y compris les non-légionnaires, Evenimentul, Seara, publient des proclamations légionnaires. Quant au général Antonescu, pas un mot, nulle part. Dans le message qu'il a lu à la radio hier soir, il l'a contrôlé encore, il affirmait que l'ordre serait rétabli dans les 24 heures. Alors, tout est possible cette nuit. Il n'est que 11 heures. Avant que le jour se lève, 8 heures encore. Est-ce que je vais dormir? Est-ce que je peux essayer de dormir? Je suis tellement seul, et toutes mes pensées vont à la maison, auprès de maman. La ville est plongée dans l'obscurité, le téléphone n'en répond pas, la radio se tait. Jeudi 23 janvier, 10h du matin. Toute la nuit, des mitraillades et des canonnades, un sommeil entrecoupé de brusques sursauts. Des rêves brefs et compliqués. Chaque fois que je me réveillais, je retrouvais identique le crépitement des armes. Ensuite, ça s'est calmé. À 9h, j'ai allumé la TSF, le speaker habituel, pas la voix anonyme d'hier soir. Annonçait que des messages officiels seraient diffusés toutes les heures. Par conséquent, la radio a été reprise par l'armée dans la nuit. Dans une nouvelle déclaration, Antonescu annonce que l'appareil de l'État et l'armée ont réagi aussitôt aux attaques des rebelles contre la présidence du Conseil et les ministères. Vendredi 24 janvier. Je suis allé rue Antime, où j'ai passé la nuit et la matinée. Tous ensemble, nous étions en effet plus rassurés. Nous nous sommes serrés dans les bras, comme après une très longue séparation. Hier, vers 11h du matin, on commençait à défiler dans la Calea Victoriei, se dirigeant vers la Chaussée. De longues colonnes motorisées allemandes, fusils et mitrailleuses en position de tir. impressionnant. Il était clair que l'armée allemande soutenait le général Antonescu contre la rébellion légionnaire. Je suis entré dans quelques épiceries pour faire des courses. Partout, des gens gais, optimistes, bucarestois, plus curieux que terrifiés. Le soir, on n'entendait plus aucun coup de feu. La radio diffusait des communiqués précis, rassurants. Toutes les armes, y compris les fusils de chasse, doivent être déposées dans les 24 heures. Hier soir et ce matin, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Des gens qui veulent savoir si nous sommes encore en vie, si rien de grave n'est arrivé, si c'est passé. Il paraît qu'il y a de nombreuses victimes, mais on ne sait rien de précis pour l'instant. À l'heure qu'il est, la rébellion en tant que coup de force est incontestablement liquidée. Sima a donné un nouvel ordre, affirmant que quiconque continuait à se battre se mettrait hors la loi. Les reniements, les désaveux affluent, le général a l'air inflexible, pas une hésitation. Il annonce de sévères sanctions contre les leaders, contre les meneurs. Reste aussi à analyser l'attitude de l'Allemagne, qui a dû provoquer une stupeur mortelle dans les rangs gardistes. Je pense à Gitze, Rakoveanu, à Haig, Sioran, Dinu Noïka, Mircea Eliad. Toujours chanceux, lui, s'il est encore à Londres. Un incident, heureusement sans conséquence, du moins jusqu'ici, mais éloquent. À l'endroit où un soldat est tombé, en face de notre immeuble, à l'angle de la pharmacie Toys, quelques cierges brûlaient hier matin. Des passants s'arrêtaient et demandaient pourquoi. Entouré de 5 à 6 passants, un malheureux, un pauvre crétin racontait « C'est une youpine qui a tiré au revolver, du toit de cet immeuble-là, et elle a tué un adjudant. » Une youpine a demandé un homme d'un certain âge, assez bien habillé, plutôt paisible. « Oui, une salope de youpine !» Et on ne lui a rien fait. « Tu parles que si, on l'a arrêté, on l'a embarqué. » J'observais les gens qui écoutaient. Pas un qui n'y crut. Pas un qui mit tant soit peu en doute ce conte invraisemblable. Je suis allé faire mes courses. À mon retour, d'autres passants parlaient de la même chose. À présent, ce n'était plus une youpine, mais un youpin. Certains affirmaient qu'il avait tiré du 4e étage, lequel n'est plus habité depuis le tremblement de terre. D'autres qu'on ignorait tout. Quelqu'un a proposé une fouille de l'immeuble. Plus tard, je regardais de ma fenêtre les groupes. Ils devenaient plus nombreux, plus agités. Le bobard enflait. S'en fallait-il de beaucoup qu'un assaut ne fût lancé contre les appartements juifs de l'immeuble? Voici comment peut éclater un pogrom. Lundi 10 février 1941. Eugène Ionesco, vite enivré après quelques cocktails, samedi matin, se met soudain à me parler de sa mère. Sans que nous ayons jamais abordé ce sujet, je savais depuis longtemps, par oui dire, qu'elle était juive. Étourdi par la boisson, Eugène se met donc à tout dire, d'un souffle, comme pour se soulager de je ne sais quelle oppression qui l'étouffait. Oui, elle était juive. Elle était de Craiova. Son mari l'a abandonnée en France avec 2 enfants en bas âge. Elle est restée juive jusqu'à sa mort, lorsque lui, Eugène, l'a baptisée de sa main. Puis, sans transition, il me parle de tous ceux dont on ignore qu'ils sont juifs. Il les évoque tous avec un certain dépit, comme s'il voulait se venger d'eux ou passer lui-même inaperçu dans leur foule. Pauvre Eugène Ionesco, quel tracas, quel tourment, quel détour pour quelque chose d'aussi simple. J'avais envie de lui dire qu'il me devenait très cher, mais il avait trop bu pour que je me montre sentimental. Mardi 11 février 1941. Une atmosphère de guerre, de mobilisation générale. Ce soir, il fait encore plus noir dans la ville qu'hier soir. Seuls de rares réverbères sont encore allumés. Les vitrines sont aveuglées par des tentures ou du papier bleu. Tous les volets sont clos. À 9 heures, c'est le désert. Quelques passants courent après les taxis, qui filent sans s'arrêter. Les véhicules gris des Allemands sont pour la plupart boueux. Ils arrivent d'un long chemin et repartent pour un long chemin. Les soldats allemands qui flânaient jusqu'ici en touristes sont pressés, préoccupés. Dans le tram, dans la rue, on parle tout le temps d'un possible bombardement anglais. Mais bizarrement, je ne décèle nulle inquiétude. Au contraire, une espèce de curiosité, comme pour un spectacle en préparation. Les Lassaigne prennent demain matin l'avion pour Sofia, Istanbul, Le Caire. Séparation mélancolique. J'étais plus ému que n'aurait dû me le permettre notre amitié pas assez ancienne, pas assez intime. Mais ce sentiment de rester dans un monde qui se referme, on se sent abandonné. C'est plus qu'à un départ, ce à quoi on assiste. Ce sont des ponts coupés. Quand les rétablira-t-on? Quand renouera-t-on les liens? Mercredi 12 février. La première de l'Iphigénie de Mircea Eliade au National. Je n'y suis pas allé, cela va de soi. Il me serait impossible de me montrer à n'importe quelle première. À plus forte raison, à une qui a fatalement dû être l'auteur, les interprètes, le sujet, le public, une espèce de rassemblement légionnaire. Cioran, bien qu'il ait participé à la rébellion, garde sa place d'attaché culturel à Paris, que lui a donné Sima quelques jours avant d'être renversé. Le nouveau régime augmente son salaire. Il va partir dans quelques jours. Parlez-moi d'une révolution. Mardi 18 mars. Déprimante, la loi sur les loyers publiée par les journaux du matin. Je ne sais pourquoi je trouve les mesures antisémites légales plus affligeantes, plus humiliantes que les passages à tabac, que les bris de vitres. Mais au fond, cette loi tombe bien, peut-être, à titre d'avertissement. Elle nous rappelle une fois de plus toutes les menaces toujours présentes. Les Juifs oublient tellement vite, avec tellement d'inconscience et de puérilité, que quelqu'un doit leur rappeler de temps à autre quel est leur destin. J'ai été triste toute la journée. Si j'ai le cœur lourd, ce n'est pas parce que je vais devoir payer un loyer au-dessus de mes moyens, et peut-être renoncer à mon studio, pas parce que nous allons devoir chercher pendant je ne sais combien de temps un nouveau logement. C'est à cause de cette cruauté stupide, inutile, dont le seul but est de faire le mal et d'humilier. Pour le plaisir de faire le mal, pour le plaisir d'humilier. Mercredi 26 mars. La Yougoslavie a adhéré hier à Vienne au pacte tripartite. Les hésitations n'ont servi à rien, les regrets ne peuvent rien réparer. Toujours le même jeu, le tour de la Turquie approche. Mais il faudra que vienne d'abord, comme il est fort probable, l'occupation de la Grèce par les Allemands. Un jour bien lointain, on écrira peut-être une étude sur un phénomène étrange, propre à notre époque. Les mots perdent leur sens, leur densité, leur contenu. Qui les prononce n'y croit pas, qui les entend ne les comprend pas. Si on analysait du point de vue lexical, syntaxique, sémantique, les innombrables déclarations qui paraissent presque tous les jours dans la presse, et si on les confrontait avec les faits auxquels elles se rapportent, on constaterait que le divorce est absolu entre la parole et la réalité. Eugène Ionesco est venu me voir hier matin, désespéré, suffoqué, obsédé. Il ne supporte pas l'éventualité d'être chassé de l'enseignement. Apprenant tout à coup qu'il a la lèpre, un homme en bonne santé peut devenir fou. Eugène Ionesco apprend que ni son nom, ni son père de souche incontestablement roumaine, ni son baptême chrétien à la naissance, que rien, rien, rien ne peut occulter la malédiction d'avoir du sang juif dans les veines. Nous autres, il y a longtemps que nous nous y sommes habitués, à notre chère lèpre, jusqu'à la résignation, jusqu'à je ne sais quel découragement, triste, mais fier. Jeudi 27 mars. À 11h30 tout à l'heure, Radio Bucarest a annoncé l'expropriation des biens immobiliers juifs qui seront attribués aux enseignants, aux officiers, aux magistrats. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas tant cette mesure en elle-même, car au regard de la guerre, rien n'a d'importance, rien n'est essentiel. C'est qu'en prenant une mesure antisémite aussi grave, le gouvernement saute toute une série de diversions qu'il aurait pu graduer, échelonner. Qu'est-ce qui peut suivre après cette expropriation? Peut-être l'organisation d'un ghetto, et ensuite? Ensuite, il n'en reste que le pogrom. Dimanche 20 avril, le soir. On confisque les radios des Juifs. L'opération a commencé aujourd'hui, jour de Pâques, sans avertissement. Ce n'est pas une surprise, il fallait même s'y attendre. Mais c'est encore un coup qui me déprime. J'étais assez inconscient, assez enfant ou assez irresponsable pour me nourrir 5 jours durant de projets littéraires, pour m'enivrer de la joie d'écrire, pour échafauder des projets, pour rêver de succès futur, en oubliant tout ce qui se passait autour de moi, en oubliant tout ce qui était arrivé, tout ce qui nous attendait, tout ce qui nous guette sans cesse, sans cesse, sans cesse. Voilà venir un long été qui sera terriblement dur pour nous. Dans toutes les hypothèses, il ne saurait être que terriblement dur, et moi qui y voyais une espèce de vacances. Je peux être parfois tellement stupide. Samedi 10 mai. Il y a un an, les Allemands envahissaient la Belgique et la Hollande. Le matin du 10 mai 1940, rien de tragique. Rien de définitif n'était encore arrivé. Tous les chemins étaient ouverts. Puis sont venus ces 12 mois atroces, à l'issue desquels nous sommes presque étonnés de vivre, de croire, d'attendre encore et malgré tout. Hier et aujourd'hui, des groupes de gens devant les boulangeries fermées, dans l'attente du pain. Des cris, des bousculades, des murmures, et par-dessus tout, une espèce de lassitude imbécile. Dimanche 11 mai. Froid et pluie. Un printemps humide, transperçant. De ma fenêtre du 8e jusqu'à la pluie qui était belle. Les Allemands n'ont toujours pas déclenché leur nouvelle offensive que nous attendons d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. Lundi 2 juin. La guerre, la guerre, la guerre. On ne parle que de cela. Chacun a un renseignement de plus à vous fournir. On ne sait que croire, comment vérifier, qui interroger. La panique s'installe. Tout échappe à un jugement rassis. Qu'allons-nous devenir, nous autres, juifs? Quelle sera notre situation militaire en cas de mobilisation générale? Visite chez Pipide cet après-midi avec Eugène Ionesco. Il nous a lu des pages de Thucydide d'une troublante actualité. On eût dit un pamphlet contre les Allemands. Fini aujourd'hui le père Goriot, de loin le meilleur Balzac que j'ai lu. Je continue à réfléchir à mon éventuel roman à venir. Les 2 ou 3 premiers chapitres sont plus ou moins esquissés dans mon esprit. J'ai notamment établi des liens possibles entre les divers personnages flottants auxquels je pense depuis si longtemps. Mais cela va de soi, c'est un projet très éloigné, qui ne passe pas avant la pièce, ni hélas, avant la guerre. Non, je ne suis pas inconscient, crois-moi. La littérature est un narcotique trop faible face aux événements.
Et un an après, voici le bilan dressé par Sébastien.
Samedi 14 juin 1941. Un an aujourd'hui depuis la chute de Paris. Lundi 16 juin. Eugène Ionesco fait irruption chez moi ce matin pour me dire qu'il n'y a plus aucun espoir. La guerre contre les Russes est définitivement décidée. Elle est imminente. Vianou a filé à Sinaïa pour y installer ses enfants. Le communiqué TASS d'avant-hier ne démentait rien. Au contraire, il confirmait tout. Nous autres qui continuons à ne pas croire à la guerre, nous sommes obtus ou aveugles. Il a passé toute la matinée chez moi, torturé, décomposé. Je crois pourtant qu'il est rentré chez lui, légèrement rassuré. Mercredi 18 juin. Pluie et obscurité. L'aspect étrange d'une ville engloutie par les ténèbres, rayé seulement à de très brefs instants, par les faisceaux des lampes de poche que les passants allument pour trouver leur chemin sans se cogner, sans tomber. L'offensive des Anglais à Solum a été repoussée. Ils y ont d'ailleurs renoncé. Encore une fois, l'impression désolante que rien, nulle part sur la terre ne peut réussir contre les armées allemandes. Rien de nouveau sur le front intérieur. On attend toujours la guerre, pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain. Dimanche 22 juin. Dans 2 proclamations, l'une adressée à la nation, l'autre aux armées, le général Antonescu annonce que, aux côtés de l'Allemagne, la Roumanie engage une guerre sacrée pour libérer la Moldavie et anéantir le bolchevisme. Ce matin, de son côté, Hitler a expliqué dans une longue déclaration les causes de la guerre déclenchée cette nuit contre les Soviets. Avant le lever du soleil, les troupes allemandes ont franchi la frontière russe en quelques points et ont bombardé quelques villes. Pas de précision géographique.
Le journal s'achève le 31 décembre 1944. Mikhaïl Sébastien s'inquiète de Poldi, son frère. Il le sait en France, malade, mais vivant. Mikhaïl Sébastien décédera le 29 mai 1945, renversé accidentellement par un camion soviétique à Bucarest. S'il n'était mort ce jour-là, il aurait certainement connu les prisons communistes. Peu d'années après, un procès stalinien dans lequel son nom est cité parmi les comploteurs condamnera à de lourdes peines et à la mort un certain nombre de ceux avec qui il était en contact. Le régime communiste fait donc silence sur l'écrivain, sur son œuvre. La déstalinisation en 1954 permit une ouverture partielle. La réhabilitation ne viendra qu'après la chute du communisme avec les publications de « Depuis 2000 ans » et « Comment je suis devenu hooligan ». Des brûlots non conformes à la vérité officielle. Mikhaïl Sébastien dérange. Il pressentait de façon clairvoyante l'évolution de l'Europe et l'antagonisme Est-Ouest. Ne disait-il pas en septembre 1944 « Tant d'hommes sont morts, qui n'ont pas vu de leurs yeux la fin de la bête. Nous qui sommes encore vivants, nous avons eu cette chance immense. Ensuite, je n'en sais rien. Ensuite commence la vie, une espèce de vie qui doit être vécue. Je n'ai rien désiré hormis la liberté. Non une nouvelle définition de la liberté, mais la liberté. Après tant d'années de terreur, nous n'avons pas besoin de nous faire expliquer ce que signifie être libre. Nous le savons, et aucune formule ne remplacera ce savoir. » Il dérange aussi côté occidental, en donnant une image peu flatteuse de certaines valeurs sûres du monde des lettres, Sioran, UNESCO. Mikhaïl Sébastien reste peu connu et peu joué en France. Lui qui définissait son théâtre ainsi, « Il y a dans mon théâtre un penchant au délicat, qui me ferme la porte des grands succès. Aussi longtemps que je jouerai sur la touche du subtil, je n'arriverai pas à conquérir le grand public. » Nous espérons que cette lecture vous aura donné le goût de découvrir cet artiste complet qui restitue de manière vivante et décalée cette période. C'est un Roumain qui s'exprime, qui est aussi un intellectuel lucide, et un Juif, victime de l'horreur nazie. La musique que nous avons choisie est celle d'un compositeur, Aimé de Sébastien. Il était d'ailleurs un mélomane averti. Il s'agit de la Rhapsodie roumaine d'Enescu, interprétée par Dana Ciocărlie. Anne Pronot.
Philippe Pronot.